Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui la première partie d'une interview de Jean-Philippe Bru, professeur de théologie pratique à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Il nous apporte ses réflexions sur l'amour du prochain. Il répond aux questions d'Élise Clavitaire, chargée de communication digitale au SEL.
Notre sujet aujourd'hui, c'est l'amour du prochain. Et donc le sujet en fait, de la journée du SEL, c'est aimer son prochain, mission possible. Pour vous, qui est le prochain ?
Bon, alors le prochain, comme le mot l'indique, si on y prête attention, c'est celui qui m'est proche, géographiquement ou qui m'est proche affectivement. Et il semblerait que dès l'Ancien Testament, il y a cette idée que même si l'amour que je dois à mes semblables est un amour, on va dire, universel, qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, concrètement, il va pouvoir se manifester plus facilement à l'égard de ceux que je côtoie au quotidien qu'à l'égard de celui qui habite à l'autre bout de la terre, bon, surtout à une époque où autrefois il n'y avait pas les moyens de communication modernes. Mais voilà, le prochain, c'est vraiment celui que je côtoie au sein de ma famille, de ma communauté, mes voisins, mon collègue de travail, mon camarade de classe. Donc, ça devient très concret lorsque j'arrive à imaginer mon prochain comme celui à qui je peux rendre service de manière très concrète dans ma vie quotidienne.
Alors, du coup, est-ce que ça part un peu du principe que, de toute façon, Dieu nous a placés, en fait, à un moment donné et à une place donnée et que, du coup, il faut un peu chercher à peut-être exploiter finalement ses capacités, ses compétences et tout, là où on est, plutôt que d'essayer d'aller chercher peut-être à l'autre bout du monde ou quelque chose comme ça.
Pour aller chercher à l'autre bout du monde, ça peut aussi être une forme de fuite parfois, hein, parce que c'est plus facile de s'intéresser à des gens qui n'ont pas d'impact immédiat dans ma vie que de s'intéresser à des gens avec qui je me frotte au quotidien. Et c'est là souvent que le défi est le plus grand, de pouvoir pardonner une personne qui m'a fait du tort concrètement dans ma vie, que de dire « je pardonne à telle nation qui a été en guerre contre la mienne ». C'est lorsque j'ai été touché personnellement que ça devient un peu difficile, parce que c'est plus personnel. Donc il faut, je pense, vraiment considérer l'amour du prochain comme une des raisons principales pour lesquelles Dieu tout simplement nous a créés. Donc peut-être revenir à la raison pour laquelle on existe finalement, et de considérer que finalement tout ce que Dieu a créé à l'origine était censé contribuer au bien du prochain. Et pas seulement les êtres humains, mais quand on considère la création des étoiles, du soleil, de la lune, qui ont quand même été créés afin de servir au bien de l'humanité. Et lorsque Dieu crée les arbres fruitiers, lorsqu'il crée les choses de la nature, bien que ce ne soient pas des êtres avec une intelligence comme les humains, ils ont été créés pour rendre service finalement à ceux qui les entourent, y compris aux animaux. Et combien plus nous qui avons été créés à l'image de Dieu, avons-nous été créés justement dans ce but de pouvoir nous rendre utiles pour notre prochain. Et donc on devrait vivre avec comme un style de vie en fait, le fait de rendre service à son prochain et de réfléchir de manière très concrète et quotidienne. Voilà, comment est-ce que je peux me rendre utile aujourd'hui à mon prochain, quel qu'il soit, celui que Dieu va placer sur ma route en priorité, mais parfois des personnes auxquelles je ne pensais pas a priori en me levant le matin.
J'aime beaucoup en fait, c'est un peu la notion de style de vie plus que une action précise ou un projet précis. Mais est-ce que du coup, selon vous, en fait, quelle est un peu la limite? Dans le sens où, vous disiez tout à l'heure que du coup, en fait, on peut être au service de son prochain et Dieu aussi nous a donné des choses, que ce soit matérielles ou immatérielles. Mais jusqu'où, en fait, on doit, entre guillemets, aller?
Oui, c'est une question difficile, hein. Alors, c'est intéressant de voir que la manière dont le commandement d'amour du prochain est formulé dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique en particulier, sa première apparition, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et la manière dont ce verset a été généralement compris, alors je sais qu'il y a plusieurs interprétations possibles, mais celle qui, moi, me paraît la plus cohérente avec la logique des auteurs bibliques, c'est en fait que nous devrions apprendre à aimer notre prochain de la même manière que nous avons tendance à nous aimer spontanément nous-mêmes, surtout depuis la chute. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a été créé dans le but de rendre service au prochain, que c'est vraiment notre raison d'être, en plus de glorifier Dieu. Hein, mais voilà, comme tout être humain a été créé à l'image de Dieu, je ne peux pas aimer Dieu sans aimer mon prochain qui lui est semblable. Donc, ça veut dire que depuis la chute, ça m'est quand même beaucoup moins naturel de donner la priorité à mon prochain et de me rendre utile pour mon prochain. Et même en tant que chrétien, on est confronté à cette limite, je dirais, liée à notre nature pécheresse, à notre égoïsme qui est si naturel, qui nous empêche en permanence d'être attentif aux besoins qui nous entourent. Et donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est finalement demander à Dieu de nous transformer de l'intérieur afin que cet amour que nous nous portons naturellement à nous-mêmes, j'ai pas besoin qu'on m'encourage à trouver de quoi manger ou de quoi me faire plaisir, mais que je puisse redistribuer un peu de cet amour que je me porte si naturellement à moi-même, que je puisse le redistribuer autour de moi à mon prochain. Et c'est comme ça que je comprends « aime ton prochain comme toi-même ». Apprends à l'aimer de la même manière que tu as tendance à t'aimer spontanément toi-même et à mettre tes propres besoins en priorité. Alors, il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse produire cela en nous. Encore une fois, ce n'est pas naturel, mais je pense que c'est le sens de ce verset.
Je trouve ça hyper intéressant, justement, que finalement, oui, c'est en fait, finalement, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et en même temps, en fait, c'est en tension avec... avec les conséquences de la chute. Et du coup, enfin, je sais que vous êtes à la fac de Aix-en-Provence aussi pour former potentiellement des futurs pasteurs, etc. Mais je me dis, en fait, si on prêche justement sur ce thème-là, c'est pas nécessairement des sujets qui sont faciles à aborder ou en tout cas qui sont faciles à entendre. Comment, à votre avis, en fait, prêcher du coup là-dessus pour que les gens se sentent concernés et pas sans être culpabilisant ou sans remettre nécessairement les gens en question? Mais que ce soit entendable et en même temps que le message passe.
Oui, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel il est difficile de prêcher, parce que ça fait tellement partie de l'essence du christianisme que, voilà, pour un prédicateur, ce serait difficile d'esquiver le sujet. Il y a d'autres sujets que l'on peut esquiver plus facilement sans que personne ne s'en rende compte, mais celui-là, je veux dire, si on ne prêche jamais là-dessus, ça veut dire qu'on va vraiment faire une sélection dans la Bible, parce que toute la Bible parle de ça en réalité, hein, ou en tout cas une grande partie de la Bible. Après, il y a l'amour du prochain vulnérable, il y a l'amour des ennemis, il y a l'amour de son conjoint dans le cadre du couple, il y a différentes catégories, mais je pense pas qu'on puisse être un prédicateur et éviter le sujet. Mais je pense que la manière la plus naturelle de l'aborder, c'est lorsque le texte biblique sur lequel on prêche en parle, tout simplement. Et donc, ça veut dire que si on fait une série de prédications dans tel ou tel livre biblique, hein, lorsque un passage aborde la question de l'amour du prochain, sous un angle ou sous un autre, hein, il devient naturel de l'aborder sans que l'auditoire se sente particulièrement visé. Voilà, et c'est normal qu'il en parle parce que le texte biblique aborde le sujet et que c'est son boulot en tant que pasteur de nous prêcher fidèlement la parole de Dieu, donc on ne peut pas lui en vouloir de nous avoir parlé de ce sujet. Après, c'est la manière dont on va en parler qui va faire la différence. On présente fidèlement le texte, mais si, comment dire, l'amour du prochain, comme toute autre forme de loi d'ailleurs, n'est pas expliqué ou annoncé à la lumière de ce que le Christ a accompli pour nous, c'est clair que ça peut très facilement devenir un discours moralisateur. Ça a été beaucoup le cas dans les sermons du XIXe siècle, parce que justement, la prédication était un peu détachée de l'œuvre de la rédemption. Donc, il faut que le prédicateur ait été formé à toujours prêcher de manière christocentrique. Donc, trouver le lien entre l'amour du prochain et ce que le Christ a accompli pour nous. Présenter le Christ comme le seul qui soit capable, par exemple, d'aimer parfaitement son prochain. Il n'y a pas de meilleur exemple d'amour du prochain que ce que le Christ a accompli, mais lui seul l'a accompli parfaitement. Donc, en tant qu'être humain pécheur ayant des tendances égoïstes, comme je le disais tout à l'heure, ça ne m'est pas du tout naturel d'aimer mon prochain. Donc, j'ai besoin déjà que mon égoïsme soit pardonné. Donc, heureusement que l'œuvre du Christ efface mon égoïsme, au moins sur un plan juridique, hein, par rapport à la manière dont Dieu me voit. Et ensuite, si je désire aller plus loin et quand même porter du fruit digne de la repentance, eh bien, je vais demander à Dieu, par sa grâce, par son esprit, de travailler en moi pour justement, peut-être pas encore faire disparaître complètement, mais au moins diminuer cette tendance que j'ai à faire passer mes propres intérêts avant ceux des autres. Et ça, je crois que c'est quelque chose que l'on peut observer dès la conversion, lorsque la conversion est authentique. On se rend compte que voilà, il y a quand même un changement d'orientation dans notre vie, et dans la manière dont on regarde Dieu, mais aussi dans la manière dont on traite le prochain. Alors ça reste un combat permanent. Voilà, je crois qu'on est tous confrontés à une recrudescence d'égoïsme dans notre vie si on n'y prend pas garde. Mais voilà, on a aussi tous les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition pour être en permanence renouvelé dans notre amour du prochain.
Alors, au-delà peut-être de le vivre individuellement, est-ce que, selon vous, c'est aussi, ce serait peut-être aussi une manière de s'encourager mutuellement que de le vivre, par exemple, au sein d'une église, d'avoir peut-être un projet commun ou quelque chose comme ça, faisant que c'est peut-être moins intimidant pour quelqu'un qui ne sait pas exactement par où commencer. Enfin, voilà, est-ce que ça peut s'insérer, par exemple, justement, dans la vision d'une église, ou est-ce que, ou individuellement, ou les deux?
Oui, les deux aspects sont indissociables. Hein. Bien sûr, il y a des personnes que je côtoie dans ma vie quotidienne que je suis le seul à côtoyer parmi les membres de mon église. Hein. Donc, je suis le seul à pouvoir leur rendre service. Hein. Je peux pas demander cela à mon pasteur ou à quelqu'un d'autre dans l'église. C'est à moi de le faire parce que c'est voilà, Dieu l'a placé sur ma route. Donc, c'est ma responsabilité. Mais c'est clair que en tant que membre d'une communauté chrétienne, on va démultiplier, je dirais, la possibilité de manifester concrètement une façon d'aimer son prochain comme soi-même. Bon, tout d'abord, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a besoin de s'encourager les uns les autres et de s'interpeller les uns les autres à vivre d'une manière qui soit moins égocentrique, mais aussi parce que on a tous reçu des dons différents. Et je pense que même si on est tous appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est pas réservé à une élite, hein, c'est un commandement qui est valable pour tous les chrétiens, il y a quand même dans l'Église des gens qui ont des dons particuliers dans ce domaine hein, et qui ont peut-être une tendance naturelle à l'empathie ou qui vont s'engager spontanément dans des activités d'ordre diaconal. Et ces gens-là sont un peu des exemples et des modèles à imiter pour les autres, hein, sans trop se mettre la pression non plus. Mais voilà, ils vont pouvoir développer leurs dons dans le cadre de l'Église et encourager les autres chrétiens à vivre cet amour du prochain à leur niveau et avec leur propre manière de le faire. Alors voilà, il faut pas trop se mettre la pression non plus, parce que tout le monde n'est pas capable, je ne sais pas, de renoncer totalement à son confort personnel pour aller aider une peuplade à l'autre bout du monde qui vit dans la misère. C'est pas forcément donné à tout le monde. Mais le fait de savoir que ça existe, ça nous encourage à faire au moins notre devoir de chrétien dans notre petite sphère d'influence et à notre niveau. Et comment dire, ça veut pas dire non plus que je dois renoncer à mes propres besoins. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Il est normal. Dieu nous a créés pour qu'on soit aussi attentif à nos propres besoins. Dieu ne m'interdit pas de me nourrir ou même de me faire plaisir dans la limite de ce que nous indique sa volonté. Mais voilà, il ne faut pas que ça se résume à quelque chose qui tourne autour de mes propres besoins. Comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi que je puisse apprendre à me décentrer de moi-même pour davantage rendre service à ceux qui sont autour de moi.
Vous pourrez retrouver le mois prochain la deuxième partie de cet entretien. Et en attendant, vous pouvez accéder aux ressources de la Journée du Sel 2021 qui comprennent notamment un contenu de réflexion de Jean-Philippe Bru en vous inscrivant sur le site internet du Sel www.selfrance.org. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.